Bonjour et bienvenue. Vous allez écouter un message du pasteur Frédéric Eman. Nous vous souhaitons une excellente écoute.
Dis à ton voisin, il y a de l'espérance pour ton avenir. Bien-aimés, nous avons parlé depuis vendredi sur ce thème et nous avons dit un certain nombre de choses. Mais s'il arrivait que tu oublies tout, s'il y a une chose que tu ne dois pas oublier, c'est qu'il y a de l'espérance pour ton avenir. Si tu as oublié toutes les paroles qu'on a pu dire, mais cette phrase doit rester ancrée au plus profond de ton cœur. Le désespoir est un grand mal qui mine notre société. Tellement de personnes dépriment, tellement de personnes sont dans la dépression, tellement de personnes prennent des médicaments, des cachets, parce que ils sont inquiets pour l'avenir. Mais nous savons que Dieu a un plan pour nous. Alléluia. Nous avons vu ensemble vendredi que nous ne devons pas nous inquiéter parce que la grâce de Dieu est sur nous. Et que quand la grâce de Dieu nous accompagne, nous allons faire de grandes choses. Nous avons vu également hier qu'il ne fallait pas s'inquiéter parce que Dieu a un plan pour ta vie. C'est dans le livre de Jérémie que Dieu dit « Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Il y a une destinée prénatale pour toi.
Alléluia.
Avant que tu n'aies une couleur de peau. Avant que tu n'aies une catégorie sociale. Avant que tu ne vives dans un quartier ou dans un autre. Dieu te connaissait déjà.
Alléluia.
Et c'est ça le vrai toi.
Alléluia.
Le vrai toi, ce ne sont pas les clichés que la société t'a donné. Ce ne sont pas les étiquettes que l'on t'a collées. Tu viens d'Afrique, tu ne réussiras pas. Tu es né dans le 16e arrondissement de Paris, tu réussiras. Ça, ce sont les étiquettes. Mais avant toutes ces étiquettes, Dieu te connaissait.
Oh, glory! Alléluia!
Mais quelles sont ces informations que Dieu avait sur toi avant que tu ne naisses? C'est ça le vrai toi. C'est pas ce que les gens disent. Donc l'équation de ta vie, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu savait d'avance. Parce que quand tu découvres cela, c'est trop tard. Dès que tu le découvres, c'est terminé. Parce que tu vas commencer à travailler dans ta destinée. Et tu vas réaliser ce pourquoi Dieu t'a envoyé. Bien-aimé, il y a une raison pour laquelle nous sommes sur la terre. Chacun d'entre nous, il y a une raison. Dis à ton voisin, il y a une raison. Nous faisons beaucoup de choses. Et nous avons le sentiment que Dieu nous a appelés pour toutes ces choses. Non, Dieu t'a appelé pour une seule raison. Jésus est venu pour mourir sur la croix. C'est vrai, il faisait des miracles. C'est vrai, il prêchait. Mais tout ça, ça faisait que accompagner la raison.
Come on.
Amen.
Come on.
À un moment donné, Jésus a dit, à ses disciples, écoutez, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup et qu'il soit rejeté. Ils ont dit, mais de quoi tu parles? Nous, on est avec toi, on vit une vie extraordinaire, tu nous donnes de l'argent, tu multiplies les pains, on a le succès. Jésus a dit, non, tout ça, c'est accessoire.
Amen.
La raison.
That's true.
Je suis venu pour mourir sur la croix. Mais toi également, tu es venu pour une raison.
Amen, amen, amen.
Tu commences à faire beaucoup de projets, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de projets. Mais il y a une raison. Quelle est cette raison-là? La raison principale.
Oh, glory.
Le problème auquel nous sommes confrontés dans l'église, c'est que je ne peux pas t'aider. Ne t'attends pas à ce que je vienne devant toi et puis je commence à prophétiser et puis dire voilà pourquoi tu es né. Non. Tu as besoin d'une révélation personnelle. Les gens veulent que des prophètes viennent et qu'ils commencent à parler sur la vie des gens. Oui, c'est vrai. Le prophète va venir parler, mais cette raison-là, il te faut une révélation personnelle. Il faut que tu aies une relation personnelle. Il faut que tu pries. Il faut que tu lises la Bible. Et c'est non! Ce chemin-là que Dieu va venir te révéler dans le secret de ta chambre.
Amen.
Dans le secret de ton intimité avec Dieu.
Amen.
C'est là que ça se passe. Nous voulons une vie facile. Nous voulons qu'un prophète des nations vienne de je ne sais quel coin de la terre et qu'il arrive dans l'église et puis qu'il commence à te dire voilà pourquoi tu es né.
Annonce.
Non, lui va peut-être venir te donner des indications. Il pourra peut-être venir confirmer. Mais il te faut une révélation personnelle. Que Dieu nous aide cet après-midi.
Amen.
Aujourd'hui particulièrement, j'aimerais parler de la bénédiction de Dieu. Ton avenir est assuré parce que Dieu t'a béni. Peut-être que tu ne le sais pas encore, mais tu es béni.
Amen.
Dis à ton voisin, tu es béni. Proverbe chapitre 10, verset 22 nous dit: c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Bien-aimé, c'est quelque chose que nous devons comprendre. C'est la bénédiction de l'Éternel qui nous enrichit. Ce n'est pas l'argent qui t'enrichit. L'argent peut être une conséquence de la bénédiction.
Amen.
Mais ce n'est pas l'argent qui t'enrichit, c'est la bénédiction de l'Éternel. Ce ne sont pas les diplômes qui t'enrichissent, même si les diplômes sont bons. Mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui t'enrichit. Ce ne sont pas les voitures qui font de toi que tu es riche ou moins riche. Mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait de toi un homme ou une femme riche. Qu'est-ce que la bénédiction? Dans notre langage courant de chrétien, lorsque l'on voit une personne avec une nouvelle voiture, une nouvelle maison, on dit « Ah, mais Dieu t'a béni !» Bon, c'est vrai. Mais la vérité, c'est que c'est un abus de langage. La maison que j'ai là, que je viens d'avoir, C'est une conséquence. C'est une conséquence de la bénédiction que j'avais reçue au préalable. Parce qu'en réalité, béné, ça veut dire bien. Béné, c'est du latin, ça veut dire bien. Diction, ça vient du verbe dire. Donc bénédiction, littéralement, pourrait vouloir dire bien dire. Bien parler. En fait, la bénédiction, c'est une parole. Je dis, la bénédiction, c'est une parole. Nous cherchons des biens matériels. Nous cherchons des choses concrètes, des choses physiques. Quand en réalité, la bénédiction, elle est abstraite. Dans la quasi-totalité des Saintes Écritures, le verbe bénir est en corrélation avec le verbe dire. Dans quasiment tous les versets où vous lisez bénir, plus loin vous allez voir dire. Il les bénit en disant. Vous n'allez jamais voir un verset là où Dieu dit il les bénit et leur donna. C'est toujours il les bénit et il dit. Je dis mais ça c'est quel Dieu? Moi je m'attends, s'il me bénit, il me donne quelque chose. Non! Une fois j'avais le sentiment d'être en grande difficulté et j'ai prié, et alors que je priais, je demandais à Dieu de me sortir, n'est-ce pas, de cette situation. Et j'ai jeûné. Premier jour, rien ne s'est passé. Deuxième jour, rien ne s'est passé. Troisième jour, rien ne s'est passé. Sauf qu'à la fin du jeûne, Dieu me parle. Et Dieu me dit une chose. Il me dit, tu ne mourras pas. J'ai dit, quoi? Je vis des situations compliquées. Je m'attends à ce que Dieu débloque ma situation. Mais la seule chose que Dieu fait, il me parle. Et quand il me parle, il me dit une seule phrase. Tu ne mourras pas. Mais j'ai compris que c'est ça la bénédiction. Parce que c'est cette parole qui a fait que j'ai pu traverser mes situations compliquées et que j'ai pu avoir la force. Parce que j'avais une promesse qui me disait que je n'allais pas mourir.
Alléluia.
Je peux souffrir, mais je ne vais pas mourir. Quand nous parlons de l'avenir et de l'espérance, bien aimé, je pense être une personne qui s'est posé des questions sur son avenir. Je pense être quelqu'un qui, à un moment donné, s'est demandé, est-ce que réellement, il y a un plan pour moi? Tu écoutes les témoignages des frères? Tu écoutes les témoignages des sœurs? Tu as l'impression que tout le monde avance? Mais quand tu regardes ta vie, mais est-ce que réellement Dieu a un plan? Pendant quasiment 7 années de mon existence, je n'ai pas eu la possibilité de manger 3 fois par jour tout un mois. Et je regardais ces campagnes de sensibilisation que nous avons à la télévision. On vous dit 5 fruits et légumes par jour.
Fraîche.
Amen.
Je disais, mais est-ce qu'ils sont sérieux? Frère, même acheter 3 fruits et légumes tous les jours, je ne pouvais pas. Eux, ils me disent 5 fruits et légumes. Mais comment je vais faire? Par jour, j'ai essayé de budgétiser, j'ai dit c'est impossible. Les deux premières semaines du mois, oui, je pouvais manger trois fois. Mais quand j'arrivais au 15, c'est terminé. Tu commences à choisir. Je mange ici, je mange là, je mange pas là. Et j'avais une prière. Je disais, Seigneur, je ne cherche même pas à être milliardaire. J'entendais beaucoup de personnes prêcher sur la prospérité. Et je disais dans mon cœur, je ne cherche même pas. Mais permets-moi seulement de pouvoir manger décemment. Juste ça, pour moi, c'est un miracle.
Amen.
Et quand je priais comme cela, je disais, je veux pouvoir choisir de jeûner. C'est-à-dire, il y a des jeûnes que tu fais. Oh Dieu! Il y a des jeûnes que tu fais pas parce que tu as choisi. Donc quand tu regardes dans le frigo, tu dis, chérie, je sens que Dieu m'a parlé. Trois jours de jeûne à sec. Parce que quelque chose doit se passer. Non, je dois pouvoir choisir. Je peux manger, mais je choisis de ne pas manger. Ce sont les genres de prières que je faisais. Permets-moi de choisir quand je jeûne. Ce n'est pas les circonstances qui m'emmènent à jeûner, mais j'ai suffisamment et je décide qu'aujourd'hui, je jeûne. Alléluia. La bénédiction. Avoir aujourd'hui la façon dont beaucoup de personnes vivent leur vie chrétienne en France, on peut se poser la question de savoir si nous considérons que la bénédiction, c'est effectivement une parole, ou bien est-ce que c'est quelque chose de concret. Nous courons vers les choses concrètes. Nous nous battons pour avoir des choses concrètes. Mais nous devrions nous battre pour recevoir cette parole de bénédiction sur notre vie. Beaucoup de personnes aujourd'hui compromettent leur spiritualité à cause du travail, à cause des études. Et tu penses que c'est justifié dans ton esprit. Non, je dois aller au travail, c'est pour ça que je ne peux pas venir à l'église. Je dois aller au travail, c'est pour ça que je ne peux pas lire la Bible. Je dois aller au travail, c'est pour ça que je ne peux pas prier le matin. Je rentre trop fatigué du travail, c'est pour ça que je ne peux pas prendre un temps de méditation le soir. Mais est-ce que tu crois réellement que ce qui sort de cet emploi, le fait que tu puisses subvenir à tes besoins, est-ce que tu crois que c'est ça la bénédiction ou que c'est une conséquence de la bénédiction de Dieu? Et d'ailleurs, ce travail, qui te l'a donné?
Enseigne-nous.
Et si celui qui te l'a donné te lâche? Ou si toi tu lâches celui qui te l'a donné? Il vaut mieux être avec celui qui donne le travail, parce que même si cet emploi s'en va, mais il me donnera un autre. Parce que c'est là la vraie bénédiction. Prenons le livre de Genèse. Premier chapitre. Verset 27 à 28. Je veux prendre deux exemples de personnes que Dieu a bénies. Genèse chapitre 1, verset 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Ici, la Bible nous parle de la création de l'homme et on nous dit que Dieu les a bénis. Et tout juste après, on nous dit, Dieu leur dit. Et il a proclamé des paroles sur eux. C'est ça la bénédiction. Je veux lire également Genèse 32, 24 à 28. Genèse 32, 24 à 28. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Verset 26. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Verset 27. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Verset 28. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur.
Amen.
Oui, dans cette histoire, Jacob a passé 20 années en exil. Il a volé, usurpé la bénédiction de son frère jumeau Ésaü. Donc il a dû partir. Sinon, Ésaü l'aurait tué, certainement. Il a travaillé pour son oncle Laban pendant 14 années, plus 6 années, donc 20 années. Et Dieu lui a parlé, Dieu lui a dit, rentre dans le pays de ton père. Et alors qu'il est en train de rentrer ici, on nous dit qu'il s'est retrouvé en train de... Il a arrêté sa famille, il avait des troupeaux, etc., ses serviteurs. Ils ont dormi et la Bible nous dit que Jacob se retrouva seul. Et pendant la nuit, il va lutter avec quelqu'un. Un ange, un homme, Dieu, bon. Et alors, à un moment donné de cette lutte, l'homme lui dit, laisse-moi partir car l'aurore arrive. Et Jacob dit, tu ne pars pas tant que tu ne m'as pas béni. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? L'homme lui dit, quel est ton nom? Il dit, mon nom est Jacob. Et ensuite, il lui dit, non, ton nom ne sera plus Jacob, mais ton nom sera Israël. En réalité, il y a beaucoup de mystères dans ce texte. Mais simplement, je veux attirer votre attention sur le fait que l'homme ne lui a rien donné physiquement. L'homme ne lui a rien donné physiquement. Mais il lui a seulement posé une question. Et après, il lui a dit, ton nom n'est plus Jacob, mais Israël. C'était ça la bénédiction. C'était ça la bénédiction.
Amen.
Voyez-vous, parfois nous venons en entretien, nous venons voir les pasteurs, nous demandons la prière, nous demandons certaines choses. Et puis, nous nous attendons des fois à ressortir avec quelque chose. Je me souviens, lorsqu'il s'agissait de me marier, il y avait un problème financier. Nous manquions de moyens pour le nombre d'invités. Et alors, je suis allé voir mon pasteur. Je dis, pasteur, voilà le problème. À l'époque, j'étais déjà moi-même pasteur. Mais je m'attendais à ce qu'il me donne de l'argent. Je m'attendais à ce qu'il puisse dire, bon, pas de problème, tiens, je finance. Et puis, dans la discussion, il me dit, Dieu va faire le miracle. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, non, nous allons prier, tout ça va bien se passer. Je dis, mais non, mais écoute, il y a tant d'invités, ça fait tant, on attend, il manque tant. C'est mathématique. Toi, tu viens me dire d'autres choses. C'est ça. Donc, essaie de trouver un moyen pour qu'on puisse avoir l'enveloppe, pour qu'on avance. Il me dit, non, Dieu va faire. Mais c'est cette parole, la parole de bénédiction. Nous devons chercher la parole de bénédiction de nos pasteurs. Parce qu'une parole peut changer, transformer ta vie. Une parole peut ouvrir des portes qui étaient fermées depuis des années. Une parole. Et Dieu a fait le miracle, effectivement. Je veux parler des différents niveaux de bénédiction. Parce que quand Dieu commence à nous bénir, il commence à un point A. Après, il nous emmène à un point B. Après, il nous emmène à un point C. Le premier niveau de bénédiction, c'est ce que j'appelle la providence matérielle. Quand Dieu veut commencer à te bénir, il va te donner des choses matérielles. Il va te permettre de pourvoir à tes besoins. Il va te permettre de manger à ta faim. Il va te permettre de te vêtir. Il va te permettre d'avoir un toit, de pourvoir aux besoins de ta famille. Que tu aies des moyens financiers et matériels. Ça, c'est le plus petit niveau de bénédiction. Nous pouvons penser que c'est le plus haut niveau, mais en réalité, non. C'est le plus petit niveau de bénédiction. Et laissez-moi vous dire, Dieu réellement se soucie de nos besoins matériels. C'est le psalmiste qui dit que il était jeune, il a grandi, mais il n'a jamais vu un juste abandonné, ni son fils ou sa postérité mendiant son pain. Il y a tellement de promesses dans les Saintes Écritures pour nos besoins. Et voyez-vous, ces paroles transcendent la conjoncture économique. Cette parole, elle est vraie qu'il y ait une crise ou qu'il n'y ait pas de crise. C'est une parole inaltérable. Elle est, quelles que soient les circonstances. Tu es le fils d'un juste. Mais automatiquement, Dieu veut pouvoir tes besoins. Appuie-toi sur cette parole. Proclame-la. Aie la foi en cette parole. Et Dieu va le faire. Je veux lire également Matthieu 6, 26 à 31. Matthieu, chapitre 6, versets 26 à 31. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lis des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Verset 31. Ne vous inquiétez donc point. Dis à ton voisin, ne t'inquiète point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Amen. Dans ce texte, Jésus voit que ses disciples ont vraiment des difficultés en ce qui concerne faire confiance à Dieu pour leurs besoins personnels. Et Dieu leur dit, mais regardez les oiseaux. Même Dieu pourvoit aux besoins des oiseaux. Mais toi, tu es la créature à l'image et à la ressemblance de Dieu lui-même. Si Dieu prend soin des oiseaux, est-ce qu'il ne prendra pas soin de toi? Dieu veut réellement pourvoir à nos besoins. Et nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Premier niveau de bénédiction, c'est la providence matérielle. Le deuxième niveau de bénédiction, ce sont les idées. Dites les idées. J'entends par idée une pensée, une inspiration novatrice, créatrice que Dieu va te donner. Deuxième niveau de bénédiction, ce sont les idées. C'est-à-dire que Dieu va te donner une idée, quelque chose à faire, qui va d'abord révolutionner ta propre vie, mais qui va révolutionner la vie de ton entourage, et qui est susceptible de révolutionner le monde. Mais le problème, c'est que quand Dieu nous donne les idées, nous n'y croyons pas. Tu as une inspiration, tu sens que tu dois créer une entreprise, mais tu dis non, ça ne va pas marcher. Dieu peut te mettre en tête de créer un nouveau type de bouchon pour le champagne, par exemple. Et tu dis non, ça ne va pas marcher. Pourquoi ça marcherait? Pourquoi moi? Et comment? Après, tu te demandes, mais comment je vais faire pour financer cela? Mais comment est-ce que je vais commencer? Mais bien aimé, quand Dieu te donne une idée, il va la faire fonctionner.
Amen.
Si tu n'as pas les moyens, Dieu va créer les systèmes.
Amen.
Et les moyens vont arriver.
Amen.
D'une façon ou d'une autre.
Amen.
Dieu va financer cela. Quand tu vas commencer à travailler, quand tu vas commencer à creuser cette idée, tu ne vas pas comprendre comment des subventions vont commencer à arriver.
Amen. Amen.
Des personnes vont commencer à dire, moi j'accepte, moi je finance, moi je te donne temps, moi je suis partenaire.
Amen.
Des choses vont commencer à se passer. L'idée, la pensée, Dieu va te donner des choses novatrices à réaliser. Et pour cela, je voudrais m'appuyer sur l'histoire, encore une fois, de Jacob. Vous pourrez lire l'histoire, c'est dans Genèse 30, 31 à 43. Jacob, lorsqu'il travaillait donc pour son oncle Laban, il a travaillé pendant 7 années pour sa femme. Il a eu un accord avec Laban et Laban lui a dit, travaille 7 ans et tu pourras te marier. Mais lorsqu'il va travailler les 7 premières années, il va se marier avec sa première femme qui sera la jumelle de celle qu'il voulait en réalité épouser. Et c'est la nuit de noces qui va s'en rendre compte et il aura un autre accord. Laban va lui dire, travaille encore 7 années. Il va travailler encore 7 ans. Donc finalement, il va prendre les 2 sœurs. Au bout des 7 années, Laban va dire une chose extraordinaire. Il va dire, à cause de ta présence dans ma maison, Dieu m'a béni. Si j'ai le temps, on pourra aussi en parler aussi. Il dit, à cause de ta présence dans ma maison, Dieu m'a...
Amen.
Laban s'est rendu compte que ses affaires fonctionnaient bien. Parce que Jacob était en train de paître les troupeaux de Laban. Et ça ne faisait que se multiplier. Il a dit, écoute, reste encore 6 années. Et toi-même, tu choisis ton salaire. Avant, c'est moi qui fixais ton salaire. Maintenant, toi-même, choisis ton salaire. Laban, Jacob va dire, ok, pas de problème. Toutes les brebis qui seront tachées, ce sera mon salaire. Et toutes les brebis qui ne seront pas tachées, ce sera ton salaire. Je vous laisserai lire l'histoire. Jacob va venir avec une idée, une pensée novatrice. Et au bout de quelques temps, toutes les brebis grasses, ce seront les brebis tachetées. Et elles ne vont faire que se multiplier. Et toutes les brebis chétives, ce seront les brebis qui ne sont pas tachetées. Et je vais lire ici le verset 43. La Bible dit, en fait je vais lire le verset 42 et 43. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point. Je lis le verset 43, pardon. La Bible dit, cet homme devint de plus en plus riche et il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Amen.
Amen.
Après que Jacob ait mis en place cette idée, la Bible dit qu'il est devenu fort riche. Dieu te donne des inspirations, mais pourquoi tu ne les suis pas? Parce que c'est à travers ces inspirations qu'il veut changer, transformer complètement ta vie. Nous avons plusieurs exemples, même contemporains. Lorsque vous prenez l'histoire de Google, lorsque vous prenez l'histoire de Yahoo, lorsque vous prenez l'histoire de Twitter, de Facebook, en fait, tout ce que nous utilisons aujourd'hui, c'est parti d'une idée. C'est parti d'une idée, une pensée. Mais ces personnes ont cru en cette idée. Ils ont cru en cette pensée. Et ils ont travaillé pour cela. Vous savez, l'une des choses qui va se passer, c'est que quand le Saint-Esprit va te donner cette pensée, tu ne pourras plus dormir.
Amen.
Quand le Saint-Esprit va te donner cette inspiration, tu ne pourras plus dormir. Il va te harceler. Ton esprit ne va faire que bouillonner. Tu es dans le bus, tu ne fais que penser à cette chose. Tu rentres chez toi, tu ne fais que penser à ça. Tu vois tes amis, tu ne fais qu'en parler. Ça bouillonne à l'intérieur de toi. Quand tu dors, tu essaies de dormir, tu ne fais que penser à cela. C'est le Saint-Esprit qui te parle. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. C'est une pensée qui vient du Seigneur et qu'il veut simplement implanter dans ta vie. Alléluia.
Amen.
Le troisième niveau de la bénédiction, c'est la renommée. Proverbe verset 27, chapitre 27, verset 21. Dit le creuset pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais un homme est jugé d'après sa renommée. Proverbe, chapitre 22, verset 1. Dit la réputation est préférable à de grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Et dans Genèse 12, 1 à 3, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Troisième niveau, qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu veut te rendre populaire. Dieu veut rendre ton nom grand. Aujourd'hui, il y a des personnes dont le nom est plus important même que vos cartes bancaires. Ils peuvent se déplacer dans ce monde rien que par leur nom. S'ils arrivent à l'aéroport, il dit, je suis tel. Toutes les compagnies vont vouloir qu'ils rentrent même gratuitement. Parce que ça leur fait de la publicité. Ben, je vous dis la vérité. Dès qu'ils arrivent à Paris, ils n'ont pas fait de réservation d'hôtel, mais tous les grands hôtels vont vouloir qu'ils viennent chez eux. Pourquoi ? Parce que leur nom. Ils ont une renommée. Maintenant, cette renommée, il faut qu'elle soit bonne. Alléluia. Il faut que tu aies une bonne renommée. Dieu veut rendre notre nom grand. Amen.
Amen.
Maintenant, pourquoi Dieu nous bénit ? Ça aussi, c'est un point important. Dieu ne te bénit pas simplement pour que tu puisses vivre une belle vie. Non. Il dit à Abraham, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu te bénit pour que tu bénisses aussi d'autres personnes. Vous voyez, il y a des personnes qui se ferment eux-mêmes les portes de la bénédiction à cause de l'état de leur cœur. Parce que Dieu sait que le jour où il te donna un petit pouvoir, une petite passerelle d'autorité, tu vas commencer à frapper sur les autres. Tu vas commencer à rendre le mal pour le mal. Tu vas commencer à utiliser ton autorité, à utiliser ce que Dieu t'a donné, non pas pour bénir, mais pour maudire. Si Dieu te bénit, Dieu te donne un avenir. C'est pas pour piétiner les autres. Non. C'est pour qu'au contraire, tu puisses prendre les autres et tu puisses les élever pour que quand toi tu es élevé, eux aussi soient élevés.
Amen.
C'est ce que Christ a fait avec nous. Il est venu en bas, il nous a pris, lui-même il est remonté et il nous a remonté avec lui, avec le Père. Alléluia.
Amen.
Oui, Dieu veut nous bénir, mais pour que tu sois toi-même une source de bénédiction.
Alléluia.
Dès que tu as un peu d'argent, quelqu'un te demande, tu sais comment je me suis battu pour avoir cet argent? Personne n'a dit que tu ne t'es pas battu. On sait que tu t'es battu. Mais donne-moi un peu. Tu as plus qu'il ne t'en faut. Tu te fais plaisir tout le temps. Mais donne-moi ne serait-ce que un peu. Je ne te demande pas de prendre toute ma vie en charge.
Amen.
Mais au moins une fois, donne-moi un peu. Je me souviens, dans les cours d'école, nous disions, si tu es l'enfant de Dieu. Quand chacun avait son goûter, si toi tu n'as pas, si tu es l'enfant de Dieu, donne-moi un peu. Et là, il ne pouvait pas refuser. Parce que s'il ne donne pas, c'est qu'il n'est pas l'enfant de Dieu. Donc il donne toujours un peu. Alléluia.
Amen.
Dieu t'a béni, c'est pour que tu puisses déverser cette bénédiction sur ceux qui t'entourent. La bénédiction apporte également la responsabilité. La Bible dit, on demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné. Dieu t'a beaucoup donné, mais c'est ta responsabilité aussi de rendre disponible ce que Dieu t'a donné pour les autres. Nous devons vivre pour quelque chose qui est plus grand que nous. Alléluia. Enfin, je veux parler de la bénédiction et de la relation entre le fait que nous soyons bénis et la prospérité d'une nation. Prenons le livre de Proverbes, chapitre 11, au verset 11. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Alléluia.
Amen.
Bien-aimés, nous avons vu que la bénédiction, c'est le fait de parler, de dire de bonnes choses. La bénédiction est une parole. Ça veut dire qu'en réalité, lorsque nous disons de mauvaises choses sur nous-mêmes, lorsque nous disons de mauvaises choses sur les personnes qui nous entourent, lorsque nous disons de mauvaises choses sur la nation dans laquelle nous sommes, en réalité, nous sommes en train de maudire. Oui. Quand tu passes ton temps à critiquer la France, ou l'Afrique, ou les États-Unis, mais tu es en train de maudire. Parce que tu es en train de dire de mauvaises choses, malédiction. Tu dis mal. Et en réalité, nous récoltons ce que nous semons. La Bible dit la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Toi, tu es un homme droit, tu es une femme droite. Alors tu dois bénir la nation. Tu dois avoir de bonnes paroles pour la nation.
Alléluia.
Tu dois bénir la terre sur laquelle tu es. Parce que voyez-vous, il y a une bénédiction qui est liée à la terre. Il y a une bénédiction qui est liée à la terre. Si la terre ne prospère pas, toi-même tu ne prospères pas. Une bénédiction qui est liée au lieu où tu poses tes pieds. Et il y a des lieux que Dieu a prévus pour toi. Tu veux aller à Paris, Dieu t'appelle à Reims. Mais tu vas aller à Paris, tu vas trouver des tourments là-bas. Et tu ne vas rien comprendre. Tu vas dire la France c'est dur. Non. C'est pas que la France est dure, c'est que Dieu t'a appelé quelque part. Il t'appelle dans une ville. Pourquoi tu vas dans une autre ville? Ta bénédiction est liée à cette terre. Ta bénédiction est liée à cet endroit. Ta bénédiction est liée à ce lieu. Embrasse cette terre-là. Et tu verras ce que Dieu va faire. Embrasse ce lieu. Et Dieu va te donner les meilleurs fruits. Il dit, il nous donnera les meilleurs fruits. Il ne nous donnera pas juste des fruits. Les meilleurs fruits du pays. Le lieu que ton pied foule, il te le donnera en possession, en héritage. Alléluia. Nous devons bénir la terre avec nos paroles. La deuxième chose, nous devons faire des autels. Lorsque Noé s'est retrouvé après le déluge, la première chose qu'il a faite, il a fait un autel. Parce qu'il est arrivé sur une nouvelle terre. Et sa bénédiction en dépendait. Non seulement lui, mais toute sa descendance.
Alléluia.
Et ce qui m'étonne, c'est que dans l'offrande que Noé a faite, en fait, c'était les seuls animaux qui restaient sur la terre. Les animaux que Noé avait mis dans l'arche, c'est les seuls animaux qui restaient sur la terre puisque tout le reste avait été dévasté. Noé pouvait se poser des questions sur son avenir. Il pouvait se dire, mais est-ce qu'on va tenir? Mais malgré ça, il a pris dans ses animaux. Et il a fait une offrande à Dieu. Il a fait un autel. Il a bâti un lieu où on pouvait adorer. Où on pouvait être en connexion avec Dieu. Parce que sa bénédiction en dépendait. Bien-aimé, quand tu arrives dans une nouvelle terre, il faut que tu bâtisses un hôtel. Quand tu arrives dans une nouvelle terre, il faut que tu puisses adorer Dieu. Quand tu arrives dans une nouvelle terre, il faut qu'il y ait un lieu où tu puisses être là, assis, constamment, où tu sais que tu rencontres Dieu. Nous en avons parlé vendredi. Trop de chrétiens instables. Nous avons parlé du phénomène SDF. Ou SEF, sans église fixe. Aujourd'hui, tu pries là, tu as même déjà ton programme. Lundi, je prie là, mardi, je prie là, mercredi, je prie là, samedi, je suis là, la veillée, dimanche, je suis à telle autre église. Non? Dieu veut que tu bâtisses ton hôtel quelque part. Alléluia. Et c'est là un canal de bénédiction que Dieu va utiliser pour toi, pour ta vie, pour ton avenir et également pour toute ta famille. Que Dieu nous bénisse.